Hey yo, this is the Narcissist, the Euphrates, Nomadic Massive, represent Montreal, the Basra. You're listening to the CKUT 90.3. Turn up your radios and turn off your televisions.
Cette émission est une reprise. Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce 100e épisode de l'émission Point de vue. Au sommaire, bien évidemment, 100 demi-heures, ça se fête et nous aurons avec nous quelques-uns des journalistes qui ont produit pour nous et pour vous des cartes postales sonores de leur région d'affectation.
Je suis postée à Fermont, c'est dans la région de la Côte-Nord au Québec, mais vraiment, vraiment plus au nord que le reste du territoire. On est dans un secteur isolé qui est souvent connu pour l'industrie minière avec les gros camions, la transformation.
Moi, je suis à Matagami. C'est une petite ville d'environ 1300 habitants qui est située en Jamésie, dans la région du nord du Québec.
Il faut pas dire des Acadiens, en passant, c'est des Brayons au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Les gens sont Brayons. Encore là, ça dépend de l'endroit où est-ce qu'on est. Ça, c'est un débat que j'ai peut-être pas envie d'entrer là-dedans
de
suite.
Et puis, on vous parle de feux de forêt, de récolte de bois brûlé et du prochain congrès mondial acadien.
Il y a plusieurs chasseurs qui habitent en forêt à temps plein puis qui ont perdu leur camp. Puis, donc, pour eux, c'est leur résidence principale. Donc, pour eux, ça va avoir un état vraiment crucial pour les prochains mois, les prochaines années même.
Sincèrement, pour nous, c'est carrément un non-sens là, qu'on ne se permette pas en tant que société de récupérer des superficies qui ont été incendiées.
Bienvenue donc à ce 100e épisode de Point de vue, bulle et soda gingembre, oui, on se tient tranquille, et info locale partout au pays.
Suivez-nous sur X @CanadaLJI.
Merci de nous tenir compagnie pour marquer ce jalon dans l'histoire de cette émission. On vous l'a dit en introduction, nous marquons le 100e épisode, une émission qu'on a lancée en février 2021, en plein cœur de la pandémie, et ceci grâce aux journalistes qui ont tenu le coup en travaillant souvent à distance de leurs voisins, de leurs studios radio et de nous au Fonds canadien de la radio communautaire. Les choses se sont heureusement assouplies depuis et nous voilà forts d'une centaine d'émissions et de centaines de reportages que nous avons pu vous faire entendre. Grâce à nos journalistes, oui, mais aussi de leur radio communautaire locale, d'est en ouest, du nord au sud. Vous savez qu'on est diffusé dans les territoires du nord-ouest et au Nunavut tout autant qu'en Colombie-Britannique, qu'à Terre-Neuve-Labrador. Alors, merci à tous de faire de cette émission le succès qu'elle connaît. Et s'il y en a un qui est là depuis le début, c'est bien notre vaillant journaliste Daniel Aucoin. Parle-nous de ta région de couverture, Daniel.
Moi, tu vois, je travaille à partir de Chéticamp sur l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. En tant que journaliste, je m'intéresse aux nouvelles, aux questions, aux événements qui touchent les citoyens personnellement dans leur vie quotidienne. Je couvre les affaires civiques, communautaires, culturelles pour Radio CKJM. Je m'intéresse aussi à tout ce qui touche de près la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. C'est souvent les enjeux sociaux, les histoires inspirantes qui me passionnent particulièrement. Depuis le début de mon implication avec l'initiative du journaliste local, j'ai eu la chance de produire et de publier des centaines et des centaines de nouvelles sur nos plateformes. Je suis convaincu que notre travail est vraiment important pour donner la parole aux citoyens, surtout dans les communautés francophones hors Québec. On peut dire que l'initiative du journaliste local a permis de renforcer les radios communautaires à travers le pays en offrant une couverture des réalités des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Félicitations pour le 100e épisode de Point de vue.
Merci beaucoup, Daniel, à toi pour tout le boulot abattu au fil des ans. Notre collègue Daniel Aucoin, qui œuvre au cœur de l'Acadie dans la municipalité du comté d'Inverness, 3000 personnes y vivent. On remercie Daniel qui tient promesse en nous parlant ici du Congrès acadien 2024 qui se tient cet été du 10 au 18 août, mais qui manque d'endroits où loger les congressistes qui se rendront dans la région de Clare et d'Argyle. On demande maintenant à la population de donner un coup de pouce. Marcel Saunier, gérante du Centre de bienvenue, rendez-vous de la baie.
Comme n'importe où au Canada, est vraiment pas mal au monde, il y a des crises de logement. Alors, le logement, quand même, si on est dans une pénurie, il faut quand même qu'on trouve des endroits juste temporaires pour des événements comme le Congrès mondial. Alors, ce qu'on voit beaucoup souvent maintenant, c'est des gens qu'on soit peut-être comme une roulotte ou une camp séparée sur un lac. Puis c'est soit qu'ils vont déménager dans la roulotte ou la camp. Et puis là, pendant le congrès, les gens veulent louer leur maison pour une semaine ou deux. ou l'inverse, où ils veulent rentrer leur roulotte ou leur camp pour le temps du congrès. Côté de Argyle, de Shelburne, des endroits comme ça, c'est des endroits qui vont jouer des rôles majeurs dans le logement.
Bonjour, ici Judy Lisalier au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
On reste dans l'est du pays, pas seulement parce que ça rime en le disant, mais pour retrouver Jocelyn Hébert qui vient de se lancer dans le métier de journaliste. Il est à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Il adore la question politique. Jocelyn, alors, ça te plaît le journalisme?
Salut Boris. Je suis très content de faire partie de l'initiative parce que ça me permet de découvrir un peu ce que je voulais faire avec le politique, avec des entretiens. Donc, ici aussi, au Nouveau-Brunswick, on a quand même une culture de francophonie minoritaire, ce qui fait que c'est assez intéressant de pouvoir avoir un autre média francophone, une autre source de nouvelles pour les francophones au Nouveau-Brunswick. Et un peu partout au pays, j'imagine que ça fait du bien aussi. Donc, je vous souhaite un bon centième et je vous en souhaite un autre cent.
Et on a aussi au bout du fil notre infatigable Maxime Gauthier dans la région de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick. Salut Maxime.
Salut Boris. Oui, félicitations pour la centième émission Point de vue. Merci à toi de propager l'actualité locale pour les communautés francophones du Canada. C'est très, très important, spécialement pour les régions désertées. Comme ici, moi, je couvre l'actualité locale au Nouveau-Brunswick pour la région des Hauts-Plateaux. Depuis juin 2022, deux communautés attachantes, Saint-Quentin et Kedgwick, qui partagent des passions comme la chasse, la pêche, surtout les VTT. C'est la vie idéale pour les amoureux de la nature ici et même dans tout le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. J'aime faire partie de la communauté, j'y rencontre et découvre des gens très intéressants et surtout des histoires, je dirais, impromptues, ce qui rend mon travail de journaliste très agréable.
Ben merci Maxime.
Merci Boris, ciao.
Cette émission de Point de vue est une reprise. On a quand même pas mal de journalistes dans les maritimes. Vous vous en rendez compte? Michael Robitaille est en poste à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Michael, ça fait quelques mois que tu es avec nous, mais tu es installé là-bas depuis quelque temps, non?
Ça fait déjà 5 ans que je suis arrivé dans la région. Je suis natif de Québec. Mon but, quand j'étais allé faire mon cours au Collège Radio-Télévision de Québec, c'était vraiment de venir m'établir ici. Je débutais la trentaine, j'avais envie de m'établir à un endroit où est-ce que je pouvais passer idéalement le reste de mes jours. Ça fait bizarre de dire ça déjà à l'âge que j'ai là, mais je voulais une place pour m'établir puis y rester longtemps. C'est une place que je connaissais un peu en tant que touriste. Puis finalement, les astres sont alignés pour moi pour que je puisse venir travailler, m'établir ici. J'ai fait de la radio un peu partout dans la région, pour d'autres postes aussi, pour d'autres médias. J'ai travaillé un peu à la télévision aussi à travers. Je suis allé jusqu'à Saint-Quentin pour travailler à la radio qu'il y a là-bas, à la radio 17. Je suis journaliste IGL depuis environ 6-7 mois. Le temps passe vite, là, je perds le fil, mais depuis l'été passé, à part de ça, j'ai fait de l'animation par le passé. C'est une très belle place. Les gens ici sont super accueillants. Faut pas dire des Acadiens. En passant, c'est des Brayons au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Les gens sont Brayons. Encore là, ça dépend de l'endroit où est-ce qu'on est. Ça, c'est un débat que j'ai peut-être pas envie d'entrer là-dedans de suite. Mais en gros, c'est ça. Je suis dans la belle région d'Edmundston et j'adore mon monde. Les gens sont super. Puis vraiment, je me croise les doigts pour que ça se continue puis que je puisse passer toute ma carrière ici.
On te le souhaite, Michael Robitaille à Edmundston, au Nouveau-Brunswick.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
On va vous présenter tout au long de cette émission quelques membres de l'équipe des présentations qui seront entrecoupées de brèves. Vous vous en rappelez, comme nous, on a eu un été chaud au Canada avec les feux de forêt qui ont sévi d'un bout à l'autre du pays, dans l'ouest comme au Québec et dans les maritimes jusque dans les territoires du nord-ouest. Les compagnies forestières, suite à ces incendies et avec l'accord de leur ministère des Ressources naturelles, ont redoublé d'efforts pour récupérer le bois qui avait brûlé avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, ce qui était récupérable. Au Québec, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a rendu un verdict qui en a étonné certains. Il n'autorisera pas la récolte du bois qui a brûlé dans le feu 353, c'est comme ça qu'on le nomme, au nord du réservoir de Pipmuacan, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, la décision prise au terme de 4 mois de consultation a beaucoup surpris le président de l'entreprise privée Groupe Bois Sacco, Steve Saint-Gelais, l'entreprise qui estimait pouvoir récupérer 3500 des 16 700 hectares de bois brûlé, soit 20% de la superficie du feu 353. Maxime Jaudoin au Québec a parlé avec Steve Saint-Gelais.
Pour nous, on est très déçus de cette décision-là. C'est un non-sens sur tous les plans, que ce soit sur l'aspect des changements climatiques, donc de ne pas récupérer et de pouvoir séquestrer une portion importante de volume de bois au lieu de le laisser détériorer. Ça aurait été gagnant sur l'aspect des changements climatiques. L'aspect sur le développement durable à long terme, donc de récupérer ces volumes-là, ça aurait permis d'éviter de récolter des volumes équivalents de forêts vertes, forêts vivantes, autrement dit. Puis au niveau biodiversité, mais c'est ça, quand on le regarde froidement, il y a certains aspects de la biodiversité, comme par exemple le caribou forestier, qui aurait été quand même favorisé de pouvoir permettre la régénération des superficies en question. Ben oui, effectivement, pour nous, dans le fond, l'esprit de la loi sur l'aménagement durable des forêts prévoit justement la possibilité, puis donc va dans l'esprit de récupérer des superficies qui ont été incendiées puis qui sont récupérables. Donc, on voit que, dans le fond, on parlait de 20 %, donc c'est vraiment pas l'ensemble des superficies qui peuvent être récupérées, mais les portions qui sont récupérables, on a tout intérêt à le faire. Donc, c'est pour ça que nous, on considère que ça va un peu à l'encontre de l'esprit de cette loi-là qui se veut une capacité de pouvoir régénérer les superficies.
Bonjour, c'est Marine à Toronto, en Ontario, et vous écoutez Point de vue.
On reste au Québec et on remonte encore plus au nord où nous attend notre correspondant à Matagami, Michael Grandjean. Et lui, il habite plus haut encore que Maxime Jaudoin.
Moi, je suis à Matagami. C'est une petite ville d'environ 1300 habitants qui est située en Jamésie, dans la région du nord du Québec. Elle est nichée au cœur de la grande forêt boréale d'épinettes noires. Et c'est en quelque sorte la première porte du nord quand tu arrives ici. J'ai été saisi par l'immensité et la beauté du paysage en arrivant sur place la première fois. Et depuis l'automne 2023, je contribue également au programme d'initiative en journalisme local. Une belle expérience humaine et professionnelle qui contribue à desservir en nouvelle régionale notre communauté. Une communauté forte des valeurs d'accueil et dans laquelle les initiatives locales ne manquent pas. C'est aussi une communauté qui met tout en œuvre pour la pérennité et la vitalité de son développement économique et qui a donc, j'en suis certain, de très beaux jours devant elle. Bonne journée à toi, Boris.
Merci, Michael Grandjean, sans accent sur le E. On le précise car on a 3 Michael dans l'équipe. Michael, qui s'est aussi penché sur les conséquences des feux de forêt, qui ont aussi, chez lui, évidemment, bouleversé la vie des populations des zones ravagées par les feux durant l'été 2023. Un été qui a d'ailleurs été lourd de conséquences pour les Premières Nations du nord du Québec. Eliane Grant, chargée de cours à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, explique que de s'adapter à un nombre croissant d'incendies de cette ampleur est devenu de plus en plus difficile pour les communautés locales, on s'en doute. Elle en a d'ailleurs fait état en novembre 2023 lors du 25e colloque annuel de la chaire d'aménagement forestier durable de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Madame Grant parlait en conférence des conséquences qu'ont les feux sur les populations Cree du territoire d'Eyu Ichi Bay James. Elle dit avoir entendu de la colère et de la tristesse dans la communauté Cree, qui réclame d'ailleurs le soutien financier du gouvernement du Québec.
C'est qu'avant, bon, on voyageait avec le feu. On s'est toujours adapté à ça de cette façon-là. Mais là, la réalité d'aujourd'hui fait en sorte qu'on est plutôt fixé à certains secteurs du territoire. Et le cas, par exemple, ici, c'est que c'est des feux qui ont été majeurs sur un grand territoire. Donc, ça devient difficile de s'adapter à ce genre d'événement-là. C'est-à-dire que leur territoire ou leur terrain est pratiquement tout brûlé. Donc, pour eux, même si on reconstruisait un camp, il n'y a plus de forêt où chasser, trapper. Puis la qualité de l'eau dans les lacs, vraiment que la qualité du poisson aussi va diminuer. Comment qu'on va faire pour ces familles-là? Est-ce qu'on va les inviter sur d'autres territoires, sur d'autres communautés aussi? C'est une discussion qu'il faut avoir prochainement. Il y a plusieurs chasseurs qui habitent en forêt à temps plein et qui ont perdu leur camp. Puis, donc, pour eux, c'est leur résidence principale. Donc, pour eux, ça va avoir un impact vraiment crucial pour les prochains mois, les prochaines années même. Pour eux, les conséquences sont vraiment dramatiques. Ça a des impacts directement sur leur mode de vie traditionnel. Donc, s'il n'y a plus de camp, ils ne peuvent plus chasser, pêcher, trapper à temps plein comme qu'ils le faisaient, parce que c'est un peu leur travail, en fait, c'est leur fonction. En fait, je pense que l'idée, c'est de reconstruire le plus tôt possible. Je sais que ça a été discuté avec le Cree Trapper Association puis le gouvernement de la Nation Cree aussi. Je pense qu'il va y avoir de l'aide pour ça, là, pour la reconstruction.
On retourne au Québec rejoindre Élisabeth Séguin. Bon retour, Élisabeth. Tu es une de nos correspondantes au Québec. Tu es à 1500 kilomètres à l'ouest de Matagami, non?
Moi, je suis postée à Fermont. C'est dans la région de la Côte-Nord au Québec, mais vraiment, vraiment plus au nord que le reste du territoire. On est dans un secteur isolé qui est souvent connu pour l'industrie minière avec les gros camions, la transformation du minerai de fer, tout ça. Mais au-delà de tout ça se trouve une petite population d'un peu plus de 2 000 habitants, une communauté qui est très, très active. Et c'est pour ça que je suis ici, pour les informer de ce qui se passe chez eux, des enjeux locaux, la politique municipale, l'électricité, les sports, le transport, l'épicerie, l'environnement, bien d'autres sujets. Et le tout grâce à notre seule radio locale, notre site web aussi qui est alimenté quotidiennement. Et moi, ça fait depuis 2020 que je suis rendue ici à Fermont et que j'ai trouvé un endroit qui me permet d'être accompli professionnellement, le tout dans un média communautaire qui travaille ici et qui est au service de son public. Et cette année, en 2024, on est chanceux, on souligne le 50e anniversaire de la ville et donc ça veut dire que mon travail va être tout aussi important, va continuer comme d'habitude, bien sûr, mais également pour faire des retours sur l'historique de notre ville, rencontrer des pionniers importants aussi et bien sûr continuer de mettre de l'avant notre belle région. Tout ça pour le public de Fermont.
Merci, Élisabeth, de nous parler de ta communauté. Élisabeth, qui est généreuse et qui partage avec nous, le public canadien et étranger, les réalités que vivent les Fermontois sur notre site web fréquenceinfo.ca, fréquenceinfo.ca, et bien évidemment, via cette émission qui est largement reprise au pays. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Hey, vous pouvez d'ailleurs nous écrire, oui, radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca, c'est radio@fréquenceinfo.ca. Et notre intrépide journaliste en Basse-Côte-Nord au Québec, Raphaël Hensley-Vincent, qui vit et travaille dans un village d'à peine une centaine d'habitants, un village qui a sa radio. Raphaël nous livre ici sa carte postale.
Je suis basée dans le village de Tête-à-la-Baleine, en Basse-Côte-Nord, situé dans le golfe du Saint-Laurent. Notre village d'environ 130 résidents-résidentes est situé dans une baie plate protégée par la haute mer par un archipel d'îles magnifiques. La particularité ici, c'est qu'on n'est pas relié par la route. Il faut prendre le bateau ou l'avion pour venir, ou l'hiver, la route blanche, qui est une piste de motoneige qui relie la dizaine de communautés anglophones, inoues ou francophones du littoral. C'est certain que ça amène toutes sortes de défis, cet isolement géographique. Toutes les marchandises, de l'épicerie aux matériaux de construction, sont aussi livrées par bateau ou avion, mais ça amène aussi un rapport au territoire exceptionnel. Ici, la plupart des gens vont bûcher leur bois pour chauffer l'hiver et beaucoup savent construire à peu près n'importe quoi. Mais en même temps, on a toutes les commodités. On peut écouter un film sur Internet le soir en haute vitesse et partir pour son camp la fin de semaine complètement isolé dans le bois. Moi, j'ai commencé à travailler pour l'IGL en octobre dernier, donc ça fait depuis octobre que j'habite à Tête-à-la-Baleine. Et je suis issue du milieu des sciences sociales. J'ai réalisé aussi un programme en réalisation de films documentaires plus récemment. Pour moi, travailler à Tête-à-la-Baleine, ça me donne l'occasion de faire du journalisme de proximité et d'intégrer une communauté très accueillante, de mieux comprendre les réalités complexes que ça amène le fait de vivre dans une région aussi isolée, que ce soit au niveau culturel, économique, politique ou des moyens de transport. Mais ça me permet aussi de faire du ski de fond le soir et d'apprendre toutes sortes de choses que j'avais jamais fait avant, comme me déplacer en ski doux notamment. Bye Boris, merci.
Raphaël qui remplace Pénélope Clermont qui la précédait de quelques mois. Pénélope qui avait été logée dans le presbytère du village. Vous vous en doutez, il n'y a pas trop de condos à louer là-bas.
Suivez-nous sur x@CanadaLJI.
Et on traverse en Ontario, direction la capitale nationale, pour écouter notre correspondante Marie Hillès.
Salut Boris, moi je travaille à partir d'Ottawa. J'aime beaucoup le travail de journaliste communautaire, journaliste local. Je couvre l'actualité, certes, mais je donne aussi la parole aux gens ordinaires. C'est peut-être quelque chose de banal à dire, mais j'aime les histoires humaines. Le quotidien des résidents qui fréquentent la banque alimentaire, le combat des francophones dans une région plutôt anglophone, le quotidien des membres de la communauté queer, mais aussi des événements fun, comme les levées de fonds ou même les soirées country. Ce travail m'a permis de m'impliquer au sein de la communauté francophone d'Ottawa, mais aussi de mieux connaître le fonctionnement de ce beau pays.
Notre journaliste Marie Ilesque a eu la chance de rencontrer une dame qui a tout d'extraordinaire. Treva Cousineau, une figure emblématique de la francophonie canadienne, elle est l'une des 7 personnes nommées en 2023 membre honoraire du Centre de la francophonie des Amériques. Treva Cousineau œuvre depuis 50 ans pour la défense et la promotion de la francophonie au niveau local, provincial, national et international. Aujourd'hui, à la retraite, elle a 86 ans. Elle continue de s'impliquer dans sa communauté. Ici, un extrait de cet entretien qu'elle a eu avec Marie Hillès.
Quand j'étais conseillère scolaire à Timmins, mon Dieu, dans les années, la fin de 60, là, je suis arrivée à une réunion du conseil où nous étions tous francophones sauf un, et tout se déroulait en anglais. Et moi, j'en revenais pas qu'on puisse céder ce droit de parole à un groupe francophone quand nous étions tous des francophones sauf un. Alors, c'est là, je pense, que j'ai décidé qu'il fallait absolument qu'on défende notre francophonie, qu'on y travaille, qu'on fasse la promotion, puis qu'on encourage nos gens à parler en français, à exiger des services en français, etc. C'est là que ça a commencé, je pense. Moi, je suis convaincue que si on reste active, on vieillit mieux. Je vois des gens qui ne font rien, qui s'ennuient, qui trouvent le temps long. Moi, je ne comprends pas ça, parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de bénévolat, que ce soit un hôpital, que ce soit un centre pour aînés, que ce soit n'importe quoi, il y a toutes sortes de programmes pour les aînés, toutes sortes d'activités, puis il faut rester actif si on veut bien vieillir.
Conseil entendu et bien reçu, Treva Cousineau, merci. Toute l'entrevue avec elle sur fréquenceinfo.ca. Cette émission est une reprise.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Kedgwick et Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Travaille en Ontario a tenu à nous dire un mot.
Je m'appelle Guillermo Tolosa et je suis journaliste pour la station 92.1 Go FM à Castleman en Ontario. Et être journaliste pour IGL, c'est vraiment un nouveau défi pour moi. C'est beaucoup de découvertes, étant plus un gars de radio. Je redécouvre le métier de journaliste que je n'avais pas fait depuis plusieurs années. Je découvre aussi une nouvelle province, une nouvelle région, une nouvelle ville, étant un Salvadorien du Québec. Puis c'est vraiment une expérience de découverte pour moi, de curiosité. Ça peut être parfois stressant aussi, je le cacherai pas. Il faut que je développe des outils pour aller chercher l'information, rejoindre les bonnes personnes, l'information à la source. Que je m'intéresse à des nouvelles choses, parler plus souvent anglais aussi, donc ça aide à parler plusieurs langues, pour donner la bonne information aux auditeurs. Puis je trouve que c'est une très belle opportunité pour rajouter une corde à mon arc.
Et merci à toi, Guillermo, de nous permettre de bénéficier du regard que tu portes sur l'actualité de Castleman et des environs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ici Eline Koulou. De mon côté, je travaille depuis Edmonton, vibrant au cœur de cette communauté dynamique. Mon expérience dans le domaine a été façonnée par la diversité des sujets que je couvre, allant des événements locaux aux enjeux mondiaux. Mon travail consiste à donner une voix à notre communauté, à partager des récits authentiques qui résonnent avec nos habitants. Merci de me suivre dans cette aventure journalistique au cœur d'Edmonton.
Et Bruno Laberge, qui est à Québec-Ville.
Je suis maintenant membre de l'équipe de journalistes de la station CKIA FM et c'est moi qui produis les bulletins quotidiens, les bulletins de nouvelles quotidiens. Et je fais aussi des plus longs reportages, des entrevues. qui sont publiés sur le site de Sequoia FM et qui seront publiés sur le site d'IGL, IJL plutôt, bientôt, car ça fait à peine quelques jours que je fais partie de votre équipe. Salut tout le monde!
Et on termine cette émission en compagnie d'Hubert Héberge, qui est à Penetanguishene, en Ontario. Et lui, qui n'a pas pu se retenir et qui nous raconte de façon assez ludique ce qu'il fait là-bas. Vous savez, il faut, dans bien des cas, beaucoup de courage pour s'engager comme journaliste dans l'initiative de journalisme local. On se retrouve souvent dans des petites communautés. Les défis sont grands. Nous sommes des centaines à travailler pour l'initiative de journalisme local à travers le pays, à IE à la télé, dans la presse écrite et à la radio. Ici, Hubert nous raconte une partie de son aventure.
Salut Boris, moi je travaille à Penetanguishene, dans la baie Georgienne, une ville à peu près 9000 habitants, à 1h30 au nord de Toronto, qui a une petite minorité francophone. Minorité qui a déjà été une majorité dans les années 60-70, mais malheureusement, le fait francophone dans la région est en décroissance depuis plusieurs décennies. Je dirais que dans les dernières années, le fait d'être francophone le plus connu de la région, c'est d'être la région natale de Damien Robitaille, qui est connu dans à peu près toute la francophonie canadienne, dont au Québec. La radio pour laquelle je travaille, c'est celle de CFRH, qui est une radio communautaire chapeautée par un organisme qui s'appelle la Clé de la Baie, qui est un organisme qui coordonne plusieurs services en français, comme des cours de français, des garderies, il y a un traiteur également, et il y a toute une programmation culturelle organisée par la Clé qui est proposée aux habitants de la région. Moi, mon background, c'est plutôt la muséologie. J'étudie en histoire pour être professeur. Je l'ai été quelques années. J'ai pas tant aimé ça. Et en 2020, année de changement pour plusieurs et pour moi, j'ai décidé de retourner à l'école pour étudier la radio. C'est un rêve que j'avais depuis le secondaire. J'avais fait de la radio étudiante. Donc, je suis allé au CRTQ et à la fin de mon parcours, j'avais, je pense, 3 offres d'emploi, dont une à Penetanguishene, qui était celle qui était le plus loin. Comme dans ma vie personnelle, je venais de vivre une rupture, je me suis dit, bon, allons au plus loin possible, puis allons découvrir du pays. Donc, je me suis embarqué pour Penetanguishene, et j'ai rencontré une fille dans la région, et depuis 2 ans et demi, ben, je suis ici. C'est une ville qui est particulièrement renommée pour son tourisme estival. On est près de la baie Georgienne, qui est un peu la partie nord du lac Huron. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire du bateau ici. Il y a plusieurs petites baies, des îles également. Donc, c'est de toute beauté l'été. Il faut avoir les moyens quand même pour venir dans la région. Donc, il y a beaucoup de ça. Et depuis la COVID, beaucoup de personnes des grands centres comme Toronto, Hamilton, Oshawa sont venues s'installer ici pour leur retraite ou pour travailler à distance. Donc, on a une explosion démographique. Ça contribue pas à la force du français, mais il y a quand même une communauté assez résiliente. On a des écoles francophones. On a également un journal francophone, les services de la Clé. Il reste un 10-15% de population francophone ici. Donc, c'est pas très gros, mais on se connaît tous et c'est un peu spécial d'être aussi dynamique dans une communauté majoritairement anglophone.
Et t'as commencé alors comment à la radio, Hubert?
J'ai commencé à CFRH comme animateur de l'émission du matin. Ça a été toute une adaptation parce qu'on arrive à un nouvel endroit, on connaît pas les politiciens, on connaît pas les enjeux, on connaît rien, mais faut en parler aux gens. Donc c'était du rattrapage rapide à lire les journaux et tout, mais c'est même pas ça qui a été le pire. Le pire a été de se trouver un logement. Il y a réellement une grosse pénurie de logements ici et ceux qui restent sont très très chers. Donc j'ai habité dans un motel pendant un mois et par la suite j'ai habité dans un genre de resort. L'été, c'est un endroit pour les familles, pour venir près de la plage et tout, mais l'hiver, il n'y a personne. Donc, de octobre à mai, j'ai pu habiter là pour la modique somme de 1 600 $ par mois. Après un an à l'émission du matin, mon patron, qui est à Carl Monnet, m'a proposé le programme IGL, Initiative de journalisme local. Et c'était pas vraiment ma branche, moi, le journalisme. Je suis quelqu'un d'histoire, de culture, de musique. J'adore parler de tout ce qui est culturel. Mais quand même, j'avais des choses à apprendre, entre autres la diction. Je voulais améliorer ma diction. Je dois encore l'améliorer, d'ailleurs. Mais je me suis dit, ça va être une expérience qui va être formatrice et ça va mieux me faire connaître la région. Donc, je suis heureux de faire ça, puis j'espère la faire encore plusieurs mois. C'est une expérience qui est parfois difficile, surtout que depuis septembre, je suis le seul employé de la radio, donc je fais un petit peu de tout. Mais quand même, il y a des côtés positifs, j'ai pas trop de compromis à faire, puis je peux jouer avec mon horaire également. Donc, il y a toujours du bon dans chaque situation. Et quand je vais avoir 85 ans, je pense pas avoir regretté mes 2 années à CFRH. Merci, Boris.
Eh bien, merci beaucoup à toi, Hubert, surtout. Et puis, écoute, on te souhaite plusieurs vents de dos, de bons vents de dos. Allez, à bientôt. Ciao. C'est c'est vraiment terrible. On manque de temps pour ce 100e anniversaire. On n'oublie pas de remercier ceux et celles qui auraient pu être avec nous. Daniel Biru, Vincent Lavoie, Julia Chénou, Rose Grézelin, Camille Danis, Sébastien Caron, Marine Autogali, qui avait une extinction de voix, et nos collègues au Fonds canadien de la radio communautaire, Maureen, Stéphane, Victoria, Francella, Anta, Emmanuel et Alex, Imelda Wafak qui nous quitte et qu'on salue, qu'on remercie pour tous ses efforts dans la petite communauté de Rivière-la-Paix en Alberta. C'était tout un défi. Bonne suite à toi. Bonne chance, Imelda. Merci à vous et à votre radio de nous soutenir. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. À la semaine prochaine pour une seconde tranche de la centaine. Ciao. This episode of Viewpoints is a rerun. Hello to you all and welcome to Viewpoints. Boris Chassagne here with you for the next 30 minutes. On today's show, we'll all be hoping for a clear sky on April 8th, trying to catch a glimpse of the total eclipse of the sun, saying whoosh to the clouds.
So there will be a last ever total solar eclipse in about 600 million years or so. In another, 600 million years, the moon will have moved further away, and so it won't be big enough to block out the sun. We'll get partial eclipses, and we'll get annular eclipses where you get a ring, but we will never again get a total eclipse.
Millinery artists introduces hat making in the eastern townships.
So that's what we milliners do. We do like headpieces and headwear in like by hand and take lots of time. We don't do series of stuff. We just do mainly unique pieces. So that's the difference between a milliner and a hat maker, let's say. A sculptor for the head.
In Ontario, the Alora Center for the Arts gets an extra $1.2 million in government funding.
Our target is to break ground in the fall of 2024. Ironically, we're kind of not even haven't gone fully public with the fundraising yet. We're still meeting with businesses.
And we're celebrating the 100th episode of Viewpoints with our journalists from all over the country. They'll drop in from time to time to tell us how they feel about radio journalism and their special part of the country. Welcome to Viewpoints, local news nationwide.
Follow us on X at CanadaLJI. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
Well, thanks for keeping us company. It would not be the same without you. April 8th is going to be a special day in New Brunswick and in many parts of eastern Canada as a rare total eclipse of the sun will darken the daytime sky. The town of Sackville, New Brunswick, won't be in the path of the 100% totality for the eclipse, although residents will have one distinct advantage for observing this astronomical event, Mount Allison's Gemini Observatory. Journalist Erica Butler stopped by the observatory last week to meet with Associate Professor Catherine Lovkin to find out more about what to expect on April 8th.
So we're here at the Mount Allison Gemini Observatory, which is going to be open for the solar eclipse, and we're checking out what the sun looks like today.
All right. People may have seen the sign for Gemini Observatory. Tell me what we're looking at in here. What is it? So we're in a little tiny little dome-shaped building.
Yeah, so we're inside one of our two domes. They're both exactly the same. And they have 11-inch telescopes in them. And we use them mostly for students. So the students come and do projects or observations for courses. But we also have a lot of public outreach. We have observing nights on the first and third Thursdays, if the weather's good. Of course.
Yeah, you need a clear sky.
You need a clear sky, yes.
You know, this solar eclipse, this total solar eclipse that's coming up is a rare event, and that's maybe even an understatement. Tell me about it.
So that is an understatement. The last total solar eclipse that was visible in New Brunswick was in about 900 AD, so it's been more than 1,000 years. So this is a really, really exciting thing. Unfortunately, here in Sackville, we're not quite in the path of totality. We're just outside. So we're going to get about a 99% total eclipse, which means it's still going to be amazing and really cool to see, but we're not going to have that period when the moon is completely in front of the sun. It blocks out enough of the sun's light that you can see the corona which is the hot gas sort of in the upper part of the atmosphere around the sun. And that won't be visible here, but it's still going to be a really cool event to see. It's going to get dark. Of course, the sun's going to be blocked. And so we're going to have a lot of those effects, and it's just going to be really fun. I'm very excited. Yeah.
So will you be here at the observatory for that day? What will be happening?
So we're going to have the observatory, weather permitting, of course. We're going to have the observatory open from about 3 or 3:30 until 6, which should cover most of the eclipse. And we'll have both our telescopes set up. We have solar filters that we can use so that you can actually look through the telescope and see the sun. We're going to have eclipse glasses available. We're hoping to set up some of our portable telescopes to project the eclipse so that you can look at it safely. And so there should be lots of different ways for people to see the eclipse. It's really important that you don't look directly at the sun. Even when it's 99% covered, it can still damage your eyes.
This is the thing, I guess. I mean, usually, like, I just looked out that window today and my eyes were immediately averted, like I couldn't possibly look at the sun. But during an eclipse, you can sort of stand to look at it, but it still is not a good idea.
It is still definitely not a good idea. Yeah. Because the light is blocked, it doesn't trigger that pain reflex in your eyes. And so you don't immediately look away, but it's still bright enough to damage them.
Okay. You have to use your rational brain, not your instincts.
Yes.
On solar eclipse days.
Absolutely. Rational brain.
Okay. Now just run through exactly what's happening in this. This is a solar eclipse, not a lunar eclipse, but just tell me exactly how things line up and how this is happening.
So this is a solar eclipse. So the moon is passing between us and the sun. And it's just a coincidence that the moon and the sun have about the same angular size on the sky. And so the moon completely blocks out the sun if you're in the right spot. So the moon is big enough to block out the sun, but the sun is so much bigger that the moon only casts a small shadow on the Earth. And so if you are in that shadow, you see a total eclipse. If you're in that really dark area, everybody else in the outer parts of the shadow sees a partial eclipse, which is what we're going to get. And if you're not in the path of the shadow at all, you don't see an eclipse at all. And that's very different from a lunar eclipse, because with a lunar eclipse, anybody who can see the moon can see the lunar eclipse. So the shadow sizes are very, very different.
Oh, interesting. So lunar eclipse is a more sort of global event. It's shared by more people, but this is very regional. It's like it's special for us and everyone else in the path of totality.
Yes. Yes. So we're getting, you know, people in Eastern Canada are really excited. People in Ontario are really excited. I don't think the people in BC care at all because they're not going to be able to see even a partial eclipse. So
I mean, what do you think? I mean, this must be kind of a good learning experience for your students. I mean, are they like, you know, will this parlay into, does it get the astronomy students excited at Mount A?
I think so. Yes. I know the optics class is considering doing a field trip because Fredericton will be in totality. I think Shediac is in totality. Miramichi is right in the center of the eclipse. So if you're in the Miramichi area, you get the maximum period of totality. So they're doing a field trip, but most of the astronomy students, I think, are sticking around. I'm hoping to rope them into helping out here because I'm expecting big crowds for the eclipse. I'm hoping for big crowds at least.
Well, we do know that the Anglophone East School District is dismissing students early in time for this eclipse. I guess they don't want to manage the don't look at the sun. They want to put that, you know, they want more parents in charge of making sure that doesn't happen. So yeah, it seems like there could be a lot of people in Sackville on the loose that day looking for ways to safely view.
Yes, and I really want everyone to be able to safely view the eclipse. I don't want anybody to feel like they're locked inside because they don't know how to watch it safely. So absolutely, you know, do your research, find eclipse glasses, build a pinhole camera. It's really easy to find a way to watch the eclipse without damaging your eyes.
And so tell us, give us the details of when this is happening so people can mark their calendars.
So it is a Monday, April 8th, and it's in the late afternoon. So I think the eclipse starts around 3:30 and will be pretty much done by about 6 o'clock. So it's a really good time, you know, after work, after school.
Any more cool eclipse facts?
So there will be a last ever total solar eclipse in about 600 million years or so. Because of tidal forces, the moon is actually moving away from the Earth at the rate of a couple centimeters a year. In another, you know, 600 million years, the moon will have moved further away, and so it won't be big enough to block out the sun. We'll get partial eclipses, and we'll get annular eclipses where you get a ring, but we will never again get a total eclipse.
And that's in 600 million years?
Yeah, so, you know, we've got a few eclipses to watch in the meantime.
Okay, sounds great. Thanks so much, Catherine.
You're very welcome.
This is Erica Butler in Sackville, New Brunswick, competing with the sound of Via Rail's The Ocean as it winds its way through the Tantramar Marshes. Local journalism at its best helps to build trust and understanding between the people that live together in their own corner of the world. And local radio helps us be heard in our own voices and hear our own neighbors tell their stories. Here's to 100 episodes of Viewpoints.
Follow us on X at CanadaLJI and listen to all our stories on frequencynews.ca.
The Northwest BC Resource Benefit Alliance has been advocating for revenue sharing between local governments in the region. Well, a few days ago, a five-year, $250 million agreement was reached for the Northwest communities in BC. Sean Bouchetas, a Terrace Mayor and RBA co-chaired regional district of Kitimat-Stikine, expressed his excitement about the agreement and the opportunity to build more livable and attractive communities in the Northwest. A funding model for distributing the funds will be worked out with the provincial government in the future, with a focus on addressing critical infrastructure needs and revitalization projects. Advocacy efforts and lobbying played a crucial role in securing the agreement, Bouchetas said, as negotiations were held between the BC Premier and provincial government officials as well. Collective revenue sharing is important as the impact of industry stretches across the region, Bouchetas said, and communities often experience the impacts without seeing the revenue. Sabrina Spencer is in Terrace, British Columbia. She spoke with Terrace Mayor Sean Bouchetas.
Yes, the Northwest Resource Benefit Alliance is a collection of municipalities and regional districts from Vanderhoof to Masset, 18 municipalities, 21 governments altogether. We've been lobbying the provincial government for 10 years for a resource revenue sharing agreement with the province, something similar to what they have up in the Peace region. The Peace Regional District receives $50 million annually for just the Peace Regional District, and you see communities like Dawson Creek getting $16 million a year for infrastructure, Fort St. John getting $23 million a year for infrastructure, and the only granting that we get is the stuff that we apply for, and it's on a year-by-year basis, and the stuff that the Peace is getting is ongoing. With all the economic activity in the north, especially in the northwest, like in this area, you know, when you look at all the projects that are going on, as well as proposed projects, 85% between projects being currently built or proposed in this province or in our regional district. And so there was a very strong case to get a revenue sharing agreement done. And, you know, we've been lobbying hard over the last little while. Spent a lot of time having conversations with the premier about this and Minister Kang. And we finally were able to drive this thing home and get it into the budget this year. So we are going to see $50 million annually for the next 5 years between all those local governments, which is a really good start to a long-term agreement. It's probably not exactly what we wanted, but it's a really good start.
Okay, and so 10 years for this to happen, why do you think it's taken so long?
It was hard to get attention of the government in the beginning, and just a bit of a time frame for me is I joined as a co-chair in late 2018, well, 5 years ago, and we had myself, Lee Brain, and Shane Brenner, mayors of Houston and Prince Rupert at the time, we took over as co-chairs, and just, you know, we kept plodding along with this, but we really cracked the nut a bit, per se, with Premier Horgan in 2018. I remember back that we were in Prince George, the city of Terrace, and was able to get a breakfast with Premier Horgan, and we spent an hour just lobbying with him and talking to him about how important this was. And then a couple months later in the spring, the Northern Capital Plan, the first intake of the Northern Capital Planning Grant came out, which is $100 million for communities, for, I think, in the regional district as well as Fraser Fort George. And then in September of 2019, Premier Horgan at the UBCM convention committed to getting a revenue sharing deal done with the Northwest. We were then fortunate enough in 2020 to receive another $50 million in the Northern Capital Planning Grant again. And then, of course, COVID hit. And I think when COVID hit, everything slowed down, including negotiations with the RBA. And it kind of fell a bit off tracks for a little bit there. But then in 2022, in September at UBCM convention, we signed a memorandum of understanding with the provincial government to get a deal done. And here we stand today.
Why do you think the revenue sharing seems to come across better through the government than just the city of Terrace alone or the city of Rupert alone and et cetera?
As a collective? Well, because I think the impact of industry stretches across our region. I think some communities are obviously impacted more than others. I think Terrace is one of those communities that's really impacted by industry and the community itself does not see much gain from it. The residents and commercial do, but the community just sees impacts and not actually revenue from it all. So I do think Terrace is a bit different than some of them, but I think all of the communities along the corridor, you know, feel impacts of industry but don't see revenue from it. So I think the province recognizes that. And that's why we've come to the point we're at.
Obviously, this announcement just came across our desk today. Any yep. idea when the city of Terrace will see any of this funding, how soon that would be?
I think now we have to work with the provincial government to make sure we've got an equitable funding model. And that work is going to be expedited, and we're going to try to do that as fast as we can. But I'm hoping within the next few months. It'll probably be sometime after April, you know, if the budget actually kind of starts then. So I'm hoping really early into the spring we see revenue so we can hopefully not miss a build cycle and get that money out the door.
For yourself, do you have like a wish list?
The reality is in Terrace is we have a real shortfall in critical infrastructure. So we've got a lot of work to do that's in the ground. That's not pretty stuff, but that stuff needs to be done. So that will definitely be priorities of ours. But, you know, there's some revitalization that we'd like to do too. You know, the BIA just put forward a proposal to redo the 4600 block as the downtown core. And quite frankly, it'd be nice to spend some money in our downtown and get not just the 4600 block spruced up, but more of it. So this is the kind of projects this money's for. But just to really put it into perspective, you know, we pave one road a year, usually one major road project a year, rebuild the whole thing. And with this kind of money, we might be looking at being able to do 5 to 7 road projects now.
Is there anything else you'd like to share or add at all today?
We are just super excited and super happy to finally get this thing done and look forward to seeing what the funding model looks like and spreading the wealth across the Northwest and building our communities better to make sure that we're more livable and more attractive for people.
This story is brought to you in partnership with the Local Journalism Initiative of Canada. You can see the full story at frequencynews.ca.
Hey, I'm Scott Onishchuk in Nelson, BC. To me, what's great about radio is it gives people in small communities a chance to stay informed and connect with local organizations doing great work. There's little to no TV coverage in these small communities across Canada, and not many people regularly consume print media anymore. Radio lets people know what's really happening in our small towns.
I've been with the Local Journalism Initiative since 2020, and I gotta say, hearing the stories and sharing news from across the country with my fellow journalists has been inspirational as a small town reporter. Smithers is known for epic land battles, intense outdoor enthusiasts, and of course, Grammy Award-winning artist Alex Cuba. And I've been proud to share those stories through the LJI. Pamela Hassan, Smithers, BC.
When you look at neighborhoods like the downtown east side, it is the oldest neighborhood steeped in historical significance. It is only about 30 to 40 blocks square max, but on a daily basis, it demonstrates complex social issues, including addiction, homelessness, life and death matters, poverty, mental health challenges, and sex work. But most importantly, it is a neighborhood known for its sense of community with love and care, activism, and the arts. I'm Bernadine Fox, coming to you from the unceded traditional territories of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh nations here in Vancouver, BC.
I think journalism can be a powerful tool to help showcase the concerns and opinions for our community. Local journalists are the voices for their communities, digging deep into the issues they know are important for their listeners. Lauren McKenzie, Nanaimo, British Columbia.
Ian Gregg in Prince George, BC. Our community is situated at the confluence of two major rivers, the Nechaco and the Fraser, which served as transportation routes for thousands of years before any roads came in and before any rail lines were laid down. We're an outpost where people have gathered for countless generations, and there is no one who can tell our stories but ourselves. Journalism as we know it is a documented extension of that. There are no entities in British Columbia outside of our community that will keep us up to date about what happens in our region.
Imagine that's only part of her BC team doing great work to give a voice to their communities. So happy you're with us.
Do you have questions or comments? Our email is radio@frequencynews.ca.
You're listening to Viewpoints with Boris Sasang.
Millinery artist Natalia Becquero just opened her first boutique in Knowlton, Quebec. Her goal is, of course, to share her creations with townshipers, but also to play her part in preserving the rare craft of hat making. With her new studio in the village, Becquero said that she wants to connect with the hat lovers and enthusiasts in the area and express the importance of the trade, especially during a time where hat making and millinery is kind of being forgotten. Hear part of her conversation with Taylor McClure.
I'm a costume designer. That's how I started my journey as an artist, like as a professional artist. And when I moved to Canada, I wanted to work for Cirque du Soleil. That was my biggest dream, was to work for Cirque du Soleil. I ended up kind of making my way in, but I got offered to work in the hat department at this subcontractor for Cirque. She was in charge of making the hat pieces for some shows, and I got a job because I was very good doing things by hand, and it was like love at first sight. And then I just decided to continue my path because it was absolutely amazing techniques, and just, I don't know, as I said, it was a love at first sight. And then I just ended up making it my trade. As milliners, we create hats. We were like hat makers as well, but okay. We are other stuff. We create things for the hat, like headwear in general, structure hats, made by hand and manipulating other materials than felt and straw. So that's what we milliners do. We do like headpieces and headwear in like by hand and take lots of time. We don't do series of stuff. We just do mainly unique pieces. So that's the difference between a milliner and a hat maker, let's say. Sculpture for the head. I love doing research. So I love researching new materials. I love researching like thematics as well. Like, I don't know, inspired by something that I'm living at that moment. Or if I'm doing a custom piece, I like to know a lot about the person that is getting it done. So it's a really, as I go, I develop my own creative process, but I love that I get to learn all the time. I collaborate with local artists, illustrator artists, and for my fabrics, or I work with other milliners as well for the show business to develop other techniques and or include other new techniques that I don't have, or like new techniques of like 3D printing or more technological stuff. I also like that. I like the basic like antique techniques, but I also looking forward for the technology to come into my world, you know?
Yes.
And I also collaborate with artists and communities locally, but I'm Colombian originally, and I want to keep that always in my work. Okay. So I collaborate with a community of artists and weavers in the south of Colombia. It's a very close collaboration since I've been working with them for the past 10 years. Mm-hmm. And it's been actually great to have that. So it was a very amazing to see how much people loved hats and how hats made part of their lives so closely. This is just like, I needed that just to be sure that I am where I have to be.
Thanks to journalist Taylor McClure, so Natalia Becquero's studio will now be competing with hat makers Alex Surprenant and Mélodie Lavergne, who founded Fumile 3 years ago in the nearby town of Frillishburg, Quebec, some 35 kilometers away.
You're listening to Viewpoints.
This episode of Viewpoints is a rerun. So one of our journalists working out of the prairies is Ryan Hunt. He's been with us for quite a while now, and when he was asked to send something in for this 100th episode of Viewpoints, he decided, well, we should learn more about the weather.
So the weather in Alberta, it can change on a dime. I've lived here my whole life, and I can confidently say that I've seen it rain, hail, and snow all within a 24-hour time span. But there is one thing to Alberta that's actually pretty unique. In the winters, we get things called Chinooks, where warm Pacific air drifts over the mountains and into the prairies. So in Calgary, it can get up to plus 10 in February for almost an entire week. But in Edmonton, Chinooks are non-existent because the city is so far away from the mountains, whereas Calgary is right on the mountain's doorstep. So while it's almost plus 20 in Calgary, it can be almost minus 20 in Edmonton. At least in Edmonton, we can go hang out at that pretty cool mall that we got, so I guess it's okay. I'm Ryan Hunt, reporting from Edmonton, Alberta.
Hello, I am Aisha Mian from Windsor, Ontario. Windsor is a city filled with so many passionate individuals with hundreds of stories behind each of them. And local journalism, it gives me a chance to uplift these stories, especially from those communities that aren't normally heard. And with Windsor having a fairly diverse population and a growing diverse population at that, being able to share the voices of just really inspiring individuals, it becomes even more important. So it's just a very fulfilling thing to be able to do so through radio journalism. I'm so glad that journalism has given me an opportunity to both hear and share the stories that my fellow Windsorites have.
One of the most interesting facts about Amherst Island in Ontario is that legend has it in 1823, the island was won in a game of cards. Amherst Island is also home to one of the most significant concentrations of historic dry stone walls anywhere in Canada. The island joined the township of Ernestown and the village of Bath to form Loyalist Township in 1998. I'm Ted Evans on Amherst Island, Ontario.
We now turn to Ontario, where the Elora Centre for the Arts got a big boost last week when they were given just over $1.2 million as part of the Canada Cultural Spaces Fund. The funding will help the Arts Centre with a planned expansion that Executive Director Lyon Carter says is aimed at being more accessible and serving the community at full capacity. Carter says fundraising for the project has reached $3.4 million without even going fully public yet. They hope to break ground in the fall of 2024. Riley Gillespie-Wilson is in Fergus, Ontario. He spoke with Carter on the heels of the funding's announcement.
It was a milestone moment for the Elora Center for the Arts when they secured just over $1.2 million in funding from the Canadian federal government as a part of the Canada Cultural Spaces Fund. Executive Director of the Arts Center, Leanne Carter, says the money, which will go towards expansions for their facilities, brings their total raised for the project to $3.4 million. Carter went on to say the expansion became inevitable with the amount of expanded interest in the center in recent years.
We have had so much growth since 2016 and most notably since 2019, partly with so many people moving into the community. We're serving more people. But even before that, we turn away about 50% of inquiries for use of our space. It's such great community use space. It's just we don't have enough of it.
The expansion, with an eye to creating more accessible of a facility, will include a variety of new features. Carter went on to say the Elora Center for the Arts has already completed phase one of their work this past fall, complete with a new parking lot, drainage work, and a new community pavilion. A target has now been set for when to get going on the next phase, and Carter says they have a goal of getting the work done as quickly and efficiently as possible.
Our target is to break ground in the fall of 2024. Ironically, we're kind of not even haven't gone fully public with the fundraising yet. We're still meeting with businesses and individuals that would be part of that core funding before we go public for the last bit. We want to have shovels in the ground fall 2024.
Stating it's incredible to see how far the project has come since 2019, Carter says she and the Elora Center for the Arts plan to continue to serve as a focal point of connection and creative expression for area residents and visitors. I'm Riley Gillespie-Wilson.
And that's it for us for this 100th episode of Viewpoints. We have so many people to thank this week. Our reporters and collaborators, Erica Butler, Bernadine Fox, Aisha Mayan, Ted Evans, Pamela Hassan, Ian Craig, Ryan Hunt, Lauren McKenzie, Scott Onishuk, Ryan Gillespie-Wilson, Taylor McClure and Sabrina Spencer, to our national editors Maureen McEwen and Victoria Fenner, but also the entire English team at frequencynews.ca. Some 40 journalists give us their all every week so that we can learn more about their villages, towns, cities, and provinces. All of them believe in journalism, love their community, radio stations, and our gathering place, the website of frequencynews.ca. That's where everything produced is gathered every day. Check them out and follow us on X. Viewpoints is produced by the Community Radio Fund of Canada. A shout out to our team there in Ottawa. I'm Boris Chassaigne, your host and producer. Thanks for being with us for this 100th episode. That's it for this week, and until the next, ciao.
You're on the air with Viewpoints.
This episode was a rerun.
So we'll know. We'll swing.